Bonjour et bienvenue dans le podcast 11 mois pour changer de vie. Je suis Alexandre Villoquet et aujourd'hui je reçois un invité, Karim Belghassem, cadre en logistique et passionné de géopolitique, qui me raconte l'expérience très enrichissante de son congé sabbatique en Ukraine en tant que volontaire indépendant chargé de cours à l'université. Alors comment baser son année sabbatique sur le partage et sur la volonté d'être utile pour d'autres? C'est ce que tu découvriras dans cet épisode. Podcast 11 mois pour changer de vie, je reçois Karim Belghassem qui va nous parler de son expérience de congé sabbatique. Bonjour Karim.
Bonjour.
Alors Karim, moi je pense que le mieux c'est que vous expliquiez un petit peu l'expérience que vous avez eue et parce que vous avez pris un congé sabbatique il y a quelques années. Je pense que c'est une expérience qui moi m'a semblé intéressante parce que c'est a priori pas le congé sabbatique que vous avez passé chez vous à vous tourner les pouces. Donc voilà, ça m'intéressait beaucoup de pouvoir vous interroger et préciser pour les auditeurs un petit peu les conditions de ce congé, ce que vous en avez fait. Enfin, j'ai pas mal de questions qui me viennent en tête, mais bon, d'abord le plus simple, c'est probablement que vous vous présentiez, que vous expliquiez un petit peu le contenu de votre congé, si vous le voulez bien.
Très bien. Eh bien, on va démarrer. Donc, je m'appelle Karim Belghassem. J'ai travaillé pendant 16 ans dans le groupe PepsiCo. J'y suis rentré en 2003. Il se trouve que 10 ans après, j'ai souhaité faire une validation des acquis par mon expérience en logistique, puisque j'ai occupé les postes de responsable approvisionnement client, responsable transport, et responsable litige. Ouais. Donc, je suis rentré à PepsiCo avec le niveau bac et j'avais envie, d'une part, d'améliorer mon niveau scolaire et avoir davantage de diplômes. Alors, il n'y a pas forcément de lien avec le congé sabbatique, mais il y en a un. C'est D'accord. que donc mon entreprise a financé mon diplôme. J'ai poursuivi ensuite avec un master en relations internationales et je dois préciser que je suis un grand baroudeur et voyageur, que j'aime voyager aux quatre coins du monde en sac à dos. D'accord. Ma zone de prédilection était l'Europe de l'Est et principalement la Pologne et l'Ukraine. Et il se trouve que pendant mes différents voyages en Ukraine, en 2013 et 2014, est arrivée la révolution en Ukraine qui a poussé le président Yanukovych à démissionner et à fuir l'Ukraine. J'avais des amis en Ukraine qui sont enseignants, chercheurs, et j'allais les voir régulièrement pour parler politique ou autre chose, profiter de l'Ukraine, découvrir les merveilles cachées du pays. Ouais. Et ces gens qui sont universitaires, scientifiques, chercheurs m'ont dit, mais puisque tu viens tous les deux mois nous voir, pourquoi ne t'installerais-tu pas en Ukraine? J'ai dit oui, mais j'aimerais faire quelque chose d'utile. Ils m'ont dit, tu pourrais enseigner à la faculté, enseigner les relations internationales et le français. Il se trouve que je terminais un master à distance en relations internationales avec l'IRIS et que l'idée d'enseigner, ça me permettait, si vous voulez, de réaliser mon rêve, à savoir vivre à l'étranger, vivre une expérience professionnelle et personnelle à l'étranger, mais faire quelque chose d'utile. Ce n'est pas se rouler les pouces. J'aurais très bien pu aussi voyager aux quatre coins du monde, mais je voulais faire quelque chose de vraiment utile pour moi et puis pour les autres tant qu'à faire.
D'accord.
Comme en plus, en parallèle, je me suis aperçu que je n'avais pas vraiment de perspective d'évolution dans ma société, que en gros je tournais en rond. Donc je me suis dit, ça serait le moment de passer à l'action et de réaliser ce projet que j'avais dans la tête depuis déjà quelques années, puisque la validation des acquis, c'était pareil. Je l'avais dans la tête depuis quelques années, je l'ai accompli, le projet a suffisamment mûri pour que je le mette en pratique et en action. Du coup, je me suis posé la question, comment faire la demande? Est-ce que ça sera accepté? Sachant que je n'avais pas de perspective d'évolution, il n'y avait pas de raison que le projet soit refusé. Je m'étais évidemment renseigné en amont et il était bien inscrit que l'employeur peut refuser une fois, mais que je pouvais faire la demande une seconde fois et qu'elle avait de grandes chances d'être acceptée. Du coup, c'est ce que j'ai fait en expliquant mon projet qui était totalement cohérent avec la personne que j'étais, puisque évidemment, ils me connaissent. Ils connaissent mon goût pour les études. Ils trouvaient ce projet très cohérent et donc ça a été rapidement accepté, sans aucun problème. Et donc, j'avais décidé de prendre un congé sabbatique de 9 mois, puisque ça incluait la durée de la scolarité à l'université,
Oui,
de
d'accord.
septembre jusqu'à juin inclus. Donc 9 mois étaient suffisants, il n'était pas nécessaire d'en avoir plus. Et d'autre part, c'est une transition toute trouvée pour aborder la question du budget. Comment
Oui.
finance-t-on un congé sabbatique?
Exactement.
Comment ça se passe? De combien d'euros avais-je besoin par mois? Donc en fait, c'est très simple. Il faut savoir que le premier mois de congé sabbatique, bon, je l'ai financé avec mes congés payés. Donc le
D'accord.
congé sabbatique, il a commencé donc un mois après, mais le premier mois, c'était financé via mes congés payés. Donc jusque-là, aucun souci. Il faut savoir également bon, que le coût de la vie en Ukraine est beaucoup plus faible qu'en France,
Oui.
et qu'avec des revenus équivalents à 700 ou 800 euros par mois, vous pouvez aisément assurer le paiement de votre loyer, la nourriture, le chauffage, vos transports en tout genre.
OK, ouais.
Donc ce n'était pas une grande difficulté. J'avais en plus la chance bon, d'avoir un reste de stock options que j'ai pu vendre,
Oui.
qui a permis de financer intégralement mon congé sabbatique. Mais si je dois donner un budget, le budget en lui-même, il était de l'ordre de 8 000 euros, donc
D'accord.
sur toute la durée du congé sabbatique. Donc le problème financier n'était pas un problème, en fait.
Ok, ouais, alors c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, bah, clairement, on sait que la destination peut jouer. Alors c'est vrai que souvent, quand on regarde les personnes qui partent, si c'est une option voyage, eh ben, c'est certain que si on part en Asie, c'est pas tout à fait la même chose que de partir en Amérique du Nord ou en
Tout
Australie.
à fait, tout à fait.
Là, c'est des destinations peut-être encore un peu plus atypiques quand même, mais effectivement, la
Oui.
question du coût de la vie est primordiale. Ça, je pense que vous avez raison. Et alors, les stock options, alors ça, évidemment, ça va pas concerner malheureusement la majorité des personnes, mais je reconnais que dans
Oui,
mon cas,
oui.
ça fait partie aussi des solutions pour financer. Donc, je comprends bien le sujet puisque j'ai également pu utiliser cette solution-là, puisqu'effectivement, comme on reste salarié de son entreprise, comme on reste aux effectifs, on ne perd pas ses droits à ces actions-là en partant pour un congé sabbatique. Donc, ça peut être pour ceux
Absolument.
qui ont la chance d'en bénéficier, évidemment, ça peut être une solution. Ok, ouais, non, mais très bien, très clair
Exactement.
sur le côté budget. Effectivement, c'était bien l'un des points que je comptais aborder parce que c'est généralement une question qui arrive très rapidement. Ouais.
Tout à fait. Ce que je peux rajouter également, c'est que je tiens à préciser que la demande de congé sabbatique n'était nullement une fuite. Malgré ce
Oui.
que je vous ai dit au départ, que je n'avais pas de perspective d'évolution dans la société, c'est qu'en parallèle, j'ai toujours des projets et des idées à accomplir. Donc il y avait la reprise d'études et le congé sabbatique, c'était, je dirais, un vieux projet, un vieux rêve. Et je pense qu'il faut toujours essayer, lorsqu'on peut bien sûr, d'accomplir et de concrétiser ses rêves et ses projets, sous peine d'avoir des frustrations, ou des regrets. Et il n'y a pas pire que de vivre avec ces ressentis-là. Donc j'ai préféré foncer sans trop me poser de questions, mais en posant bien le projet quand même, parce que c'est un projet qui a mûri, qui m'a demandé plusieurs mois de réflexion, à savoir
Ouais.
si je pouvais le faire, si je voulais vraiment le faire, et pour quelles raisons. Il ne faut pas se trouver de mauvaises raisons. Il faut vraiment un projet bien ficelé, qui ait du sens, pour pas vous retrouver dans une situation où là vous vous posez vraiment les grandes questions existentielles. Alors ce qui n'est pas un mal, c'est très très bien de se recentrer un peu sur soi, d'avoir une réflexion sur sa vie, ce que j'ai fait également. Mais ça doit venir indirectement, ça ne doit pas être l'élément moteur et déclencheur. Ça ne doit pas être, selon moi, uniquement cet argument-là qui vous pousse à prendre ce genre de décision. Il me fallait quelque chose d'épanouissant qui me tire vers le haut, à titre personnel et même professionnel. Et donc enseigner, c'était vraiment une grande richesse pour moi, parce que j'arrivais dans un pays où vous avez des élèves qui parlent très bien français, qui
D'accord.
sont curieux, qui vous challenge aussi par rapport à leurs questions. Je tiens à préciser que j'avais aussi des classes de terminale dans un lycée et que j'avais des très très bons élèves qui m'ont demandé de faire un cours, par exemple, sur l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, sur le
D'accord.
dadaïsme. Alors bon, il y avait des choses que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas du tout.
Ouais.
Et il m'est arrivé de préparer mes cours. Parfois, j'y ai passé la moitié de la nuit, hein, de me remettre dans les bouquins, d'aller sur Internet. Je vous disais, c'était très 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 challenging. Et puis il y a un lien affectif qui s'est établi avec ces élèves qui avaient soif d'apprendre. Et étant moi-même passionné de la langue française et puis de géopolitique pour ce qui est de l'enseignement des relations internationales, j'avais donné des cours sans les préparer. Il y avait des lignes directrices. Mais par exemple, une fois, j'ai fait un cours sur l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, et c'est une chose que j'avais vécue avec mon père lorsque j'étais petit, et je réexpliquais le contexte, à savoir que François Mitterrand s'était allié aux communistes, et je faisais le parallèle avec l'URSS. Donc j'essayais de trouver des points d'accroche avec leur histoire, ce qui a
Bien
permis
sûr.
d'avoir d'avoir des débats et des échanges très constructifs avec ces élèves. Donc même pour moi, ça a été vraiment une source d'information et d'apprentissage avec eux. Donc, je leur dois beaucoup à ces élèves de par leurs échanges et le partage qu'on a pu se donner les uns par rapport aux autres.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, là vous avez du coup mentionné tout un ensemble de raisons et je vous rejoins complètement sur le fait que je pense que ça se prépare un congé sabbatique. Oui, bien sûr, je suis d'accord également, quand on a un rêve, il faut se donner l'occasion dans la mesure du possible de le réaliser. Donc ça c'est vrai. Par contre, je pense qu'il ne faut pas le faire sur un coup de tête, qu'il faut bien
Absolument.
identifier les raisons, il faut le préparer. Et là finalement, bah, oui, vous avez évoqué tout un ensemble de raisons, mais si je comprends bien, il y avait une partie qui était liée à la volonté de mieux découvrir encore ce pays que vous connaissiez déjà bien, la volonté aussi de partager quelque chose, enfin, vous découvriez le pays, vous vouliez aussi faire découvrir, enfin apporter quelque chose par rapport aux Français, par rapport à la France, et puis cette volonté aussi d'apprendre quelque chose de nouveau, de partager à travers l'enseignement, parce qu'effectivement, c'est pas non plus exactement le cas des personnes qui, pourquoi pas, vont donner quelques cours de français par-ci par-là pendant leur voyage pour arrondir les fins de mois, mais sans y passer beaucoup de temps. Là, je comprends qu'il y avait parfois un bon travail de préparation avant vos cours.
Absolument, je vous confirme d'autant plus que, évidemment, j'étais bénévole. En fait, j'étais volontaire indépendant. Ce qui était bien vu dans le pays, surtout à cette période compliquée, donc c'était en 2015-2016, le pays connaissait une crise avec l'annexion de la Crimée et puis les événements dans le Donbass. Il y avait la guerre civile dans le Donbass à l'extrême est du pays. Moi, j'étais situé dans la ville de Tchernivtsi, qui est plutôt dans l'ouest du pays, limitrophe avec la Roumanie et la Moldavie, qui est une région très très calme. Donc, j'étais d'autant plus heureux que le coin était assez paradisiaque. Tchernivtsi, c'est une ville où l'architecture est d'inspiration austro-hongroise. On la surnomme le Petit Paris, et vous avez les montagnes, les Carpates qui sont à côté, qui sont pas très loin. Donc voilà, quelque part c'était dépaysant pour moi. J'ai redécouvert un pays que je connaissais un petit peu déjà de par mes différents voyages, mais je voulais un aspect aussi humain. Dans ce périple, il y avait déjà des volontaires étrangers qui venaient, mais via des organismes. Moi, j'étais vraiment volontaire indépendant puisque j'ai été encouragé par des universitaires et des
Oui.
chercheurs qui m'ont même trouvé un appartement très vite lorsque je suis venu au début de l'année scolaire. Et ces personnes sont tellement amoureux de la langue française, de la culture française, bon, que moi aussi, je me devais d'être à la hauteur
Oui.
de l'histoire de France. Les gens en Ukraine ont toujours l'image de la France assez classieuse, raffinée, avec l'image du général de Gaulle, de
D'accord.
Napoléon Bonaparte, du savoir-vivre à la française. Donc quelque part, je me devais aussi d'être à la hauteur de tout cela. Donc ça vous fait une grande remise en question et vous devez vraiment répondre à leurs attentes. Et à la fin, ce congé sabbatique, il a produit plusieurs effets positifs. D'une part, Les professeurs et scientifiques que j'ai rencontrés m'ont proposé de participer à des conférences universitaires sur les relations avec l'Union européenne,
D'accord.
ce qui fait que j'ai été inclus dans des programmes Jean Monnet, où j'étais chargé d'écrire un article, par exemple, sur les relations entre la France et l'Ukraine. Et j'ai rencontré des scientifiques qui ont apprécié mes travaux et qui m'ont proposé de participer à d'autres conférences.
D'accord.
L'autre chose, c'est que j'ai des ces mêmes chercheurs m'ont dit, il y a une école de diplomatie à Varsovie, ce serait bien que tu la fasses. Et donc du coup, je me suis inscrit à cette école de diplomatie à Varsovie et j'ai été accepté. J'ai passé un entretien en anglais avec un Américain et une semaine par mois, j'étais à Varsovie pour suivre des cours sur la sécurité internationale, sur l'OTAN. Il y avait
D'accord.
près de 200 élèves, principalement des Polonais, des Allemands, des Ukrainiens. Et donc, j'avais un enseignement en anglais pendant toute une semaine. Donc, ce qui fait que ce séjour, ce congé sabbatique est allé vraiment au-delà de mes espérances. C'était pas du tout reposant.
Ouais, non, ça
C'était
j'imagine.
un gros challenge intellectuel et humain. Et puis, vous mettez aussi de côté votre confort. Je vous dis ça parce que pour me
Ouais.
rendre en Pologne, j'étais obligé de prendre un bus de nuit, de faire
D'accord.
16 heures de bus. Et en plus, vous attendez 4 heures à la frontière avec la Pologne. Il y a plein de contrôles. Le bus, les portes du bus sont ouvertes toute la nuit. Il fait froid, il fait 0 degré, voire moins 5 degrés dehors. Donc,
Ouais.
c'est assez tortueux, mais ça vous fait sortir de votre cocon,
Ouais, tout à fait,
de
ouais.
votre confort habituel. Donc, par la suite, ça vous fait relativiser pas mal de choses.
Et donc ça a pu se faire, du coup, pendant les 9 mois où vous étiez en Ukraine, vous avez réussi à suivre la scolarité à Varsovie pendant la même période.
Absolument, puisque
D'accord.
j'étais totalement libre, mais l'université me laissait libre choix pour les cours. Donc j'enseignais 4 jours par semaine, et puis voilà, je m'organisais en fonction des demandes. Bon, j'avais 3 classes à ma disposition, et puis j'avais créé les cafés français dans un café du centre-ville pour pouvoir échanger avec les élèves qui souhaitaient
D'accord.
dialoguer en français avec moi. Donc du coup, accompagné de boissons sucrées ou alcoolisées, eh bien ça vous permettait de refaire le monde ou de commenter l'actualité. Malheureusement, bon, c'était produit pendant cette période les attentats du Bataclan, ce qui m'avait
Ouais.
permis indirectement d'organiser un cours en urgence ou une petite conférence sur le terrorisme en France depuis les années 80 et comment ça a évolué et pourquoi les événements à la fois de chez Charlie Hebdo et du Bataclan sont arrivés. Donc ça vous pousse vraiment dans vos retranchements pour bien expliquer, tenter de bien expliquer les choses et de sensibiliser les élèves à ce sujet.
Ah oui, non, c'est intéressant, effectivement. Donc c'est vrai que ça doit, du coup, ça doit permettre d'avoir des relations qui sont effectivement un peu plus satisfaisantes peut-être que simplement sur un cours magistral où on manque des fois un peu d'interaction avec les élèves.
Oui, absolument, absolument. Et je ne voulais surtout pas, lorsque je faisais mes cours, soit lire je dirais, un menu ou un texte déjà écrit. Il y avait les grandes lignes, mais bon, comme c'est une passion pour moi, la politique et la géopolitique,
Ouais.
donc, les choses se faisaient naturellement. Tout se faisait naturellement, même s'il y avait une petite préparation en amont. Mais je voulais que ça soit interactif, je voulais que tout soit naturel et vraiment les faire pénétrer dans le sujet en question qui était abordé. Il y avait des filles, des élèves filles qui étaient sensibilisées par le féminisme. J'avais fait un cours sur le septennat de Valéry Giscard d'Estaing et j'avais expliqué qu'il avait nommé des femmes au gouvernement comme Simone Veil, comme Françoise Giroud, et que bon, Simone Veil avait fait passer cette loi sur l'IVG, qui était très très polémique. Cette loi avait fait polémique à l'époque.
Ouais.
Donc j'ai expliqué le contexte de la France de l'époque, que la France des 60-70 n'était pas la France d'aujourd'hui, et que la ville dans laquelle j'ai enseigné, les jeunes filles en général, à 20-25 ans, il faut déjà qu'elles soient mariées, qu'elles aient des enfants. Mais
Eh
je
oui.
sentais quand même qu'il y avait un petit changement, après avoir conversé avec elles. Elles me disaient, non, moi j'attends d'abord d'avoir une bonne formation, de partir à l'étranger pour vivre un certain temps avant de revenir en Ukraine, parce que mine de rien, elles étaient très très attachées à leur pays. Et comme il y avait des relents de nationalisme dans le sens positif du terme, hein, j'entends, suite aux différends avec la Russie, je pense qu'elles ont un véritable amour, ils ont un véritable amour pour leur pays, qui font qu'ils essayent à tout prix de trouver des solutions pour que le pays rentre dans la voie à la fois de la démocratie et de lutter contre la corruption. Bon, c'est facile à dire, bien évidemment, parce que c'est malheureusement un pays qui est enkysté dans ces problèmes-là. Donc voilà, des échanges très 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 constructifs avec cette jeunesse ukrainienne.
Ok, non, super. Bon, du coup, quelque part, pareil, vous avez un peu anticipé sur l'une des questions que je vais vous poser. Quels enseignements est-ce que vous retirez de cette période? Alors, je comprends que c'est au pluriel, effectivement. Si vous
Oui.
deviez peut-être en retenir un ou deux à l'issue de tout ça, qu'est-ce qui encore aujourd'hui, finalement, survit de cette période?
Déjà, bon, j'ai gardé contact avec beaucoup d'élèves et
D'accord.
il y a la reconnaissance de leur part d'un apprentissage intéressant selon eux, d'une aide aussi, parce que j'ai des personnes qui me demandent de l'aide lorsqu'ils doivent écrire une lettre en français. Alors, ça peut paraître présomptueux de dire ça, mais le sentiment du devoir accompli, parce que j'étais venu pour ça aussi, pour essayer de transmettre et de donner quelque chose à ces élèves, et quelque part aussi de leur changer un peu le quotidien. Ils étaient vraiment très heureux de voir un Français s'installer pour enseigner bénévolement le français et puis les relations internationales. Et je leur avais expliqué aussi que j'avais écrit un mémoire sur l'Ukraine au cours de mon master. Et je leur ai expliqué que leur pays était tellement atypique, était à la croisée des chemins, mais qu'il était tellement empreint d'histoire que je leur explique que mes week-ends ou pendant mes congés, ben je prenais un bus pour aller dans l'est de l'Ukraine, en tout cas dans les parties encore sécurisées, pour visiter le pays, admirer l'architecture, essayer de pratiquer mon russe aussi, et pourquoi pas un petit peu mon ukrainien. Donc, je vous dis, ce congé sabbatique qui a duré 9 mois, je ne l'ai absolument pas vu passer, mais alors, pas du tout. Et voilà, lorsque vous m'en parlez, je n'en parle pas avec nostalgie, mais j'en parle avec joie, avec un sourire, parce que je me suis dit, ça aurait vraiment été dommage de ne pas le faire. Ça aurait été dommage de ne pas sortir de mon confort. Ça aurait été dommage de ne pas aller au bout de ces idées.
Oui, parce qu'effectivement, bah, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, en plus avec vous, c'était quelque part, c'était une envie, un projet déjà de longue date. Donc, oui, non, je pense
Oui.
qu'effectivement, ça aurait effectivement été dommage de pas prendre cette expérience-là. Et alors, vous parliez un petit peu de toutes les questions qui peuvent aussi surgir à l'occasion d'un congé sabbatique, ou en tout cas auxquelles un congé peut aussi aider à répondre, des questions plus personnelles, donc un peu de développement personnel, de connaissance de soi. Est-ce que cette période-là, finalement, vous a fait réaliser des choses ou vous a amené des questions? Parce que des fois, c'est ça aussi, c'est qu'on pense partir et trouver des réponses et on revient avec autant de questions, si ce n'est plus. Est-ce que dans votre cas, ça a été le cas? Est-ce que ça a ramené, des réponses ou des questions nouvelles?
Ça a porté beaucoup de questions sur pas mal de sujets, sur mes relations au travail avec mes responsables. J'ai analysé certaines situations et j'ai réalisé que je ne m'étais pas forcément bien affirmé, que voilà, est-ce que je sais vraiment dire les choses? Ça m'a amené plein de questions où il y a des choses que je ne devrais plus tolérer. Et puis, alors ça, j'ai mis du temps, hein, ce que je vais vous dire, c'est pour ce que je vais vous dire, j'ai mis du temps, mais accepter aussi de ne pas avoir toutes les réponses aux questions que l'on se pose. Parfois, il faut du temps pour trouver les réponses, à savoir qu'est-ce que je veux faire maintenant de ma vie. Il faut savoir être tolérant avec soi-même et puis reconnaître qu'on ne peut pas avoir toutes les réponses aux questions dans l'instanté. Il faut savoir s'accorder du temps, surtout en ces périodes où on veut tout et tout de suite, parce que les multiples objets numériques nous permettent parfois d'avoir en un clic de souris tout ce que l'on souhaite. Mais l'être humain, ça reste un être humain avec ses complexités, ses paradoxes. Et je pense que c'est très bien d'admettre une certaine fragilité, de ne pas avoir forcément toutes les réponses, parce que justement, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines. Donc oui, je me suis posé pas mal de questions, et il y a eu pas mal de réponses qui ont été apportées, parce que je me suis estimé, c'est-à-dire que je me suis donné le droit de me poser des questions et d'accepter certaines faiblesse ou certains moments d'incertitude sous couvert de certaines autres certitudes, justement. Donc, oui, c'est aussi un recentrement sur soi-même, mais qui m'a permis, oui, de mieux appréhender certains événements, de savoir dire les choses et s'exprimer de, je vous dirais, de parfois savoir dire non.
Ouais, d'accord. Non, mais intéressant. Alors, puis c'est ce que j'aime bien quelque part, c'est que finalement, c'est un moment, même si, comme vous le disiez, clairement, c'était pas une fuite, mais où on s'éloigne de l'entreprise. Et c'est intéressant de voir que quelque part, ça amène quand même aussi des réflexions sur la manière dont on aurait pu faire différemment ou dont on pourrait faire différemment les choses en entreprise. Donc finalement, on s'éloigne un peu, mais pour mieux y revenir, entre guillemets.
C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça.
Alors, justement, par rapport à l'entreprise, j'avais quelques questions que je vais vous poser. Autour du congé. Alors d'abord, enfin, vous l'avez rapidement évoqué, si j'ai bien compris, la demande de congé, elle n'a pas posé de problème particulier. Ce qui était intéressant dans ce que vous disiez, c'est que quelque part, votre employeur, visiblement, a un peu, entre guillemets, évalué la cohérence du congé avec votre projet personnel, c'est ça?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, ça n'a absolument pas posé de problème. Ça a vite été accepté. J'ai envie de vous dire, je n'ai même pas vraiment travaillé cette demande dans la mesure où j'étais convaincu d'une part que ma demande était cohérente et justifiée, et qu'aussi bien les ressources humaines que mon responsable connaissaient mon parcours, les à côté que je faisais. Hors entreprise, à savoir les études et puis mes nombreux voyages en Europe de l'Est. Donc voilà, pour eux, c'était un choix très cohérent et cette demande n'a posé aucun problème. Il n'y a pas eu de questions ou autre.
Et est-ce que vous savez si c'était, enfin, est-ce que c'était fréquent, donc c'était chez PepsiCo, c'est ça? Est-ce que
Oui.
vous aviez des collègues qui avaient déjà pris des congés, vous saviez d'emblée, enfin, quelque part, est-ce qu'ils avaient l'habitude de ça, ou bien est-ce que c'était quelque chose d'assez finalement nouveau pour eux?
Il y a eu déjà des demandes de congés sabbatiques,
Oui.
mais je vous avoue que j'étais tellement convaincu qu'il fallait que je le fasse, que même si j'avais été le
Oui.
premier, j'aurais fait la demande
Oui,
de toute
non, tout à fait,
manière.
vous avez raison, oui. Ouais.
J'aurais fait la demande. Quoi qu'en pensent les gens, parce que vous avez toujours des personnes, bon, peu heureusement, mais il y a toujours des personnes qui vont dire, ah, mais pourquoi tu essaies de fuir quelque chose? J'ai eu des remarques comme celle-ci.
Bien sûr.
Mais bon, à titre personnel, plus j'ai droit à des remarques comme celle-ci, plus davantage ça m'encourage
Ça renforce
à
ta détermination.
entreprendre, voilà, ce que j'ai envie de faire. J'ai analysé mon parcours. Je me suis dit, bon, validation des acquis par l'expérience. Il y en a très peu qui l'ont fait dans la société. Je vais le faire parce que j'en ai envie. Le congé sabbatique, c'est pareil, mais parce que ça me correspond. Parce que ça correspond à ma personnalité, ça correspond à mes envies. Donc, vous devez, dans ces cas-là, d'être un peu égocentrique et d'aller vraiment au bout de ce que vous avez envie de faire. Il ne faut pas se culpabiliser à être centré sur soi et à dire, j'ai envie de faire ça, je veux ceci, voilà comment je vais le faire. Il y a toujours, vous savez, parfois inconsciemment, la culpabilité judéo-chrétienne qui est en lien avec tout cela. Non, on mérite tous le bonheur, la réussite, donc il suffit juste de s'en donner les moyens en s'autorisant justement cette réussite et en ne se mettant pas de barrières.
Oui, non, tout à fait. Alors, tout à fait d'accord. Et je dirais, mais d'autant plus que dans votre cas, là, pour le coup, enfin, moi, de ce que vous nous racontez, je le vois pas comme égocentrique, dans le sens où il y avait vraiment d'emblée aussi cette notion de partager, de rendre quelque chose au pays. Et à travers l'expérience que vous nous avez décrite, enfin, j'ai pas l'impression que ça a été un voyage ou une démarche purement égocentrique. Il y avait quand même cette notion de partage qui était claire, hein.
Oui, elle était énorme, hein. Mais je pense qu'aussi j'en tirais certains bénéfices
Bien sûr.
dans le sens où c'est ce que je voulais faire. J'avais un autre mode de vie, je vivais en centre-ville et j'avais des cafés, plein de cafés aux alentours. J'ai fait plein de connaissances. L'université était vraiment à 2 minutes à pied de chez moi. Ça m'a changé de la région parisienne,
Oui.
hein, bien entendu. Puis j'ai découvert une gastronomie vraiment excellente. Donc voilà, c'était vraiment un pur bonheur. C'était un pur bonheur.
D'accord, non, mais très bien. Donc ça a été utile dans les deux sens et c'est très bien comme ça. Pareil, si je reste sur les relations avec l'employeur, alors on a évoqué là le départ, la prise de congé. Au niveau du retour, parce qu'au retour, comment ça s'est passé? Vous êtes revenu dans votre entreprise après votre congé sabbatique.
Absolument.
Et alors comment ça s'est passé à ce moment-là finalement le retour? Est-ce que ça a été compliqué pour vous? Est-ce que la place dans l'entreprise quelque part, est-ce que vous avez retrouvé votre poste précédent? Enfin, comment ça s'est passé?
Écoutez, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, j'étais revenu il y a quasiment 4 ans, jour pour jour. Il n'y a pas eu de dépaysement, parce qu'en plus, je me rappelais de mes codes d'accès. C'est ça
D'accord.
qui m'a surpris le plus,
Ouais.
d'ailleurs. J'ai retrouvé mon poste initial. Oh, il a fallu me remontrer quelques petites manips, mais honnêtement, j'étais moi-même surpris du fait que je m'adapte rapidement au poste.
D'accord.
Après, il a fallu s'adapter à des nouveaux collègues qui étaient présents, parce que
Ouais.
la vie change en 10 mois, hein,
Bien sûr.
évidemment. Donc, je n'ai pas eu de coup de blues post-congé sabbatique. C'est-à-dire que je n'étais pas nostalgique, parce que j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai eu vraiment tout ce qu'une personne pouvait avoir, un travail intéressant, utile, des connaissances, même une histoire d'amour, bon, qui s'est achevée avec la fin du séjour. Donc, il y aurait de
D'accord.
quoi écrire un roman
Oui, effectivement, oui.
de ce séjour. Pour ça, il faudrait que je prenne un autre congé sabbatique, mais pour l'instant, ça serait pas possible, je crois. Mais il n'y avait pas de nostalgie, il n'y avait pas de regret. J'étais tout de suite confronté au présent et puis à l'avenir. Les seules questions que je me posais, c'est bon, voilà, quel job je veux faire réellement. Mais il n'y avait pas de déprime, il n'y avait pas de tristesse. Il y avait juste, voilà, une routine qui s'est réinstallée dans l'entreprise. Bon, j'avais un nouveau manager parce que l'ancien manager était en congé maternité.
D'accord.
Donc voilà, mais je me rappelais du chemin pour aller travailler. Donc voilà, il y a eu une réadaptation qui était assez rapide et pas de crise post-congé sabbatique.
D'accord, donc pas de crise de votre côté, clairement, et puis visiblement du côté de votre employeur, on va dire qu'il a joué le jeu aussi, parce que bon, le principe c'est de reprendre son poste ou un poste équivalent. Alors c'est vrai que ça fait partie aussi des choses qui des fois peuvent faire peur aux candidats, c'est qu'on entend de temps en temps des expériences où le retour a pu être compliqué parce que le poste a été occupé, qu'on a proposé autre chose, que c'est pas toujours ce que la personne avait envie de faire. Là, dans votre cas, vous avez retrouvé votre poste précédent.
Absolument,
Ok.
absolument, en intégralité, voilà, il n'y avait aucun changement.
D'accord, ok. Non, non, bah, très bien. Et alors, et après, question, parce que je pense qu'entre-temps, vous avez changé d'entreprise,
Oui.
donc vous vous êtes confronté, entre guillemets, aux entretiens d'embauche, de recrutement. La question du congé sabbatique, durant ces entretiens, elle a été amenée, enfin, comment vous avez présenté votre congé sabbatique? Est-ce que ça a été difficile de présenter cette période-là, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui vous a plutôt servi?
Je n'ai pas souvenir d'avoir abordé de manière frontale le congé sabbatique. Pourquoi? Alors, d'une part, je ne l'ai pas précisé dans mon CV. Bon,
OK.
j'ai fait un CV chronologique. En revanche, j'ai modifié mon CV et j'ai indiqué dans celui-ci, je l'ai indiqué en seconde page. J'ai indiqué en
D'accord.
seconde page congé sabbatique. Je n'ai pas eu de question par rapport à ça. Si vous voulez,
Ah,
ça
d'accord,
n'a pas choqué.
OK. Ah, oui,
Ça n'a
d'accord, non
pas
mais
choqué
tout à fait.
les différents recruteurs parce que j'ai eu différents entretiens. Et d'ailleurs, j'ai ouvert mon CV sous les yeux et donc j'ai fait 2 pages expérience professionnelle et la seconde page où il y a les diplômes et formations que j'ai obtenus ces dernières années. Et en divers, j'ai mis congé sabbatique, volontariat indépendant en Ukraine, avec enseignement du français, des relations internationales. Il y a juste un petit encadré en référence à ce congé sabbatique. Et pourquoi? Parce que il est totalement assumé. Je n'ai pas de crainte par rapport à des questions de recruteurs. Il faut, encore une fois, il faut que ce projet soit cohérent et que vous l'assumiez. Et puis pour montrer qu'est-ce que vous en avez fait en fait de ce congé sabbatique. À partir du moment où je peux expliquer en quoi il a été bénéfique pour moi, pour mon développement personnel et pour l'apprentissage en général, c'est non seulement un motif de fierté, mais c'est aussi un plus. Ça montre l'adaptabilité, de l'agilité, enfin des termes qui sont assez galvaudés. À aujourd'hui, c'est-à-dire vous savez vous adapter, vous savez vous remettre en question, vous savez avancer, vous savez entreprendre. Donc voilà. Donc pour moi, c'est très important de l'inscrire dans le CV à partir du moment où, désolé, je vais vulgariser le terme, vous savez vendre
Oui, bien
votre
sûr. Non, mais
expérience
tout à fait.
de congé sabbatique comme vous sauriez vendre, votre projet professionnel, votre parcours professionnel.
Non, tout à fait. Et je pense que, bon, là, effectivement, on voit fleurir assez fréquemment maintenant les qualités humaines sur les CV. Je pense que quand on a une histoire à raconter derrière pour montrer de quoi on parle, c'est quand même effectivement, là, pour le coup, il s'apprête pas vraiment à discussion. C'est intéressant, c'est que vous ayez pas eu de questions là-dessus. En tout cas, ça veut dire, visiblement, alors soit les recruteurs sont pas allés jusqu'à la deuxième page du CV, ce que je ne peux pas imaginer, soit plus probablement, c'est que ça leur a paru suffisamment clair qu'ils n'ont pas voulu aborder ce point-là. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui vous a posé problème par la suite, au minimum lors de ces entretiens.
Absolument pas. On n'a qu'une vie. Je pense que les gens qui envisagent un congé sabbatique doivent bien peser leur projet, mais en être fier, l'aborder avec confiance. Et puis effectivement l'assumer. Évidemment, vous aurez des recruteurs qui vont vous poser des questions, mais il faut savoir, c'est comme tout, il faut savoir argumenter et expliquer le pourquoi du comment.
Ouais, non, tout à fait. Non, mais ça me paraît évident. Parfait. Ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, j'avais une dernière question. Bon, vous y avez, je pense, largement répondu, mais si c'était à refaire, si on se replonge quelques années en arrière, vous devez reprendre la même décision, sachant comment ça s'est passé, vous replongez?
Bien sûr. Bien sûr, peut-être pas forcément la même chose,
Ouais.
mais si j'ai une envie cohérente qui me trotte dans l'esprit depuis des mois, oui, forcément, je replongerai dedans,
Ok.
sans hésiter.
Non, mais ça s'entend à votre. On entend l'enthousiasme derrière votre témoignage, donc je me doutais de la réponse. Bah, Karim, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je pense que c'est vraiment une expérience intéressante. Enfin, ouais, bon, moi, je trouve que je suis assez admiratif de votre parcours sur ce congé parce que j'ai l'impression, moi, de ma façon, je l'utilise bien aussi et je suis ravi de cette expérience, mais je suis resté
Merci
beaucoup
à
plus
vous.
pantouflard que vous. Mais non, non, mais c'était très intéressant. Bah, merci pour toutes ces réponses. Et puis,
Mais
bah,
c'était
écoute,
avec plaisir.
je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis pourquoi pas une prochaine fois.
Mais avec grand plaisir quand vous voulez. À très bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci, au revoir.
Karim Belgacem était donc l'invité du podcast 11 mois pour changer de vie. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a intéressé. Si c'est le cas, prends s'il te plaît une minute pour me l'indiquer dans les commentaires en dessous de l'article sur le blog. Et n'hésite pas non plus à partager ce podcast sur tes réseaux sociaux pour en faire profiter d'autres personnes, c'est cadeau. Si tu veux soutenir cette émission, la meilleure façon de le faire est encore de lui donner une note, voire même un avis, sur Apple Podcast. Je te souhaite une excellente journée.